C'est le thème de la foi, bien sûr. Il faut croire pour obtenir les grâces que nous demandons au Seigneur. Mais le thème est plus large. Pourquoi il y a eu ce choix du texte de la sagesse très court, mais qui nous rappelle que la vie qui sort de Dieu est toute pure, elle est bonne. Et si le mal est entré dans le monde, si on assiste à un empoisonnement de la vie, en quelque sorte, par le diable, ce n'est pas la volonté de Dieu. C'est la jalousie du diable, dit le texte de la sagesse. Le diable est jaloux de la souveraineté divine. C'est ce qu'il a contesté, c'est ce qui, dès le commencement du monde, c'est ce qui fait son péché, non serviam. Et ici, eh bien, c'est bien le thème. Il y a la foi, mais il y a le thème de la vie aussi qui est là. Et il y a ce thème d'un empoisonnement de la vie, empoisonnement du sang, dirons-nous, pour commencer. Dans la loi de Moïse, le sang, c'est évidemment, comme dans toute la Bible, le symbole de la vie. Et c'est pourquoi, d'ailleurs, l'ancienne alliance prévoyait, interdisait la consommation du sang, d'où la viande cachère, chez les Juifs. Et on ne peut pas consommer le sang. Donc, c'est pas par rapport à la loi, ça ne signifie pas que le contact avec le sang soit quelque chose d'impur, comme le contact avec un cadavre, par exemple. Ça signifie simplement que ça se réfère à un commandement encore plus fondamental, une exaltation, une primauté du respect de la vie. Voilà ce que ça veut dire. Je dis ça parce que souvent, on a invoqué, de mauvaises langues bien sûr, ont invoqué la Bible et donc la tradition de l'Église pour dire eh bien, que ce texte sacré méprisait les femmes, les trouvait impures. Or, ce n'est pas du tout ce que même les commandements de l'Ancien Testament, qui sont plutôt rudes, hein, on ne peut pas dire que ce soit une ouverture immense à la femme, à la place de la femme, mais malgré tout, elle est bien, bel et bien la compagne de l'homme, et il n'y a pas du tout ce préjugé d'impureté. Non, le sang, ça signifie simplement qu'on n'a pas le droit donc de le consommer, mais on n'a pas le droit de le perdre non plus, comme l'hémorroïde le fait involontairement, mais physiologiquement parlant. Mais spirituellement parlant, en est-il vraiment ainsi? Le sang, c'est l'image de la vie spirituelle, c'est un symbole. Et ce symbole, eh bien, il nous renvoie à l'âme, à la vie de l'âme, et la vie de l'âme, c'est la foi. On voit bien cette femme qui a une grande foi. Mais en même temps, puisque le sang, ça se réfère à la vie et donc à la foi, il y a également un problème chez elle. La jeune fille, à 12 ans, eh bien, elle aussi, il y a forcément un problème vis-à-vis de la foi à ce moment-là que le symbole appelle. Donc, toutes ces pertes de sang qui sont liées à l'activité, on le sait bien, maternelle de la femme, parce que la femme est la gardienne de la vie, comme la Vierge qui a gardé la vie en elle-même. Dieu a la vie en lui-même et la Vierge a gardé Jésus pendant 9 mois dans son sein. Et puis elle l'a protégé, elle l'a fait grandir ce petit enfant pour qu'il puisse devenir notre berger à tous. La jeune femme, je dirais, pour résumer, si j'essaye d'analyser spirituellement parlant, symboliquement parlant, ce texte, elle n'arrive pas à accéder à la foi. La foi, c'est ce qui lui aurait permis de gérer normalement son corps, bien évidemment, mais pas seulement le corps, puisqu'on est au niveau du symbole, de vivre, de gérer comme il convient, eh bien, sa situation, son âme, c'est-à-dire sa situation dans ce monde, le sens de la vie. Et la vieille femme, elle, à l'inverse, elle n'arrive pas à retenir cette foi qui semble disparaître de sa vie, de son âme, comme le sable qui échappe à la main, qui passe entre les doigts, qui file, qu'on ne peut pas retenir. C'est un peu dans ce sens-là que j'aimerais commenter ce passage-là. Il y a dans la vie, nous le savons bien, un combat contre l'empoisonnement de l'âme. Ce que ce sang-là, cette préoccupation du sang, dans ce texte, mentionne, nous renvoie. L'empoisonnement de l'âme. Et quand notre âme est empoisonnée, lorsqu'elle ne sait plus, par exemple, affronter le mystère du mal, et combien d'hommes et de femmes en notre monde sont scandalisés par le scandale du mal et le renvoient en crachant au visage de Dieu, tu es fautif, c'est toi qui nous as mis dans cette situation. Eh bien, on voit bien comment ils sont un peu à la fois comme la jeune fille et comme la vieille femme. Comme la jeune fille, ils ne parviennent pas à affronter la question du mal et le scandale que ça suscite. Parce qu'il faut la foi pour affronter un tel scandale. Et comme la vieille femme, ils n'acceptent pas de se voir pécheurs, de voir que cette impureté les habite, que cette vie qui s'écoule, eh bien c'est une vie qu'ils n'ont pas su retenir, cette vie spirituelle, cette vie de leur âme. Il y a donc un empoisonnement, il y a donc un combat spirituel à mener pour transformer, pour réguler cette activité sanguine en quelque sorte. La guérison se fait dans les deux cas par le contact avec Jésus. La vieille femme qui le touche, parce que justement elle est responsable, je dirais, vous comprenez bien, elle n'est pas responsable du flux de sang qui physiologiquement s'échappe d'elle, elle est responsable de cette foi, de cette vie spirituelle qu'elle ne parvient plus à retenir et qui s'échappe d'elle jusqu'à la non-foi, jusqu'aux ténèbres. Et elle a ce sursaut. Elle va toucher Jésus directement, au moins son vêtement, on pourrait dire au moins l'Église, qui revêt maintenant, depuis que Jésus est retourné dans la gloire, qui revêt cet homme parfait qui est la tête de l'Église, et l'Église est comme son vêtement, eh bien au moins toucher cela, pour le toucher lui. Or vous savez que, même si c'est pas le sang n'est pas impur, on était en état d'impureté rituelle quand on était une femme, lorsqu'on était dans ces périodes mensuelles de règles, et donc elle ne pouvait pas toucher quelqu'un sans le rendre lui-même impur. Il y a une comme les lépreux, mais sauf que la femme, ce n'était pas définitif, évidemment. Elle va toucher quand même Jésus. Parce qu'elle a la foi que Dieu est plus grand que nos impuretés, qu'on ne peut pas rendre impur Dieu. Vous voyez, c'est ça le nœud, je dirais, sur le nœud du raisonnement, le nœud qui permet à la femme de conserver la foi, de faire cet ultime acte de foi, en quelque sorte, pour réparer toute sa vie spirituelle. Le geste, Jésus, c'est encore le toucher lorsqu'il prend la main de la jeune fille, bien évidemment. Il y a un contact direct dans les deux cas. Et dans les deux cas, ça se réfère à quoi? Ça se réfère au fait que, au-delà des sacrements, au-delà de ce que les prêtres, de ce que les catéchistes peuvent nous dire sur la foi, l'Église en général, on doit aller jusqu'au contact, jusqu'à la relation personnelle avec Dieu. On ne doit pas se contenter d'une relation toute extérieure comme les Hébreux à l'époque de Moïse, quand ils étaient au désert, au Sinaï, qui se tenaient de loin, qui regardaient la montagne de loin. Et ils voyaient cette lumière, cette nuée qui était au sommet de la montagne et Moïse qui grimpait au milieu. Donc ils voyaient Dieu, ils avaient bien foi en Dieu, mais de loin. Nous, maintenant, nous avons cette possibilité, et c'est l'exigence du cœur du Seigneur, du cœur de Jésus, de nous voir tous monter cette montagne, grimper cette montagne, pour le rencontrer dans la prière. Donc avant tout, ça commence comme ça. Dans la prière, nous ne devons pas nous contenter de nous tenir à distance. Nous devons avoir cette exigence intérieure d'aller jusqu'à le toucher. Alors, Jésus, lui, même ceux qui ne peuvent pas venir à lui, eh bien là, pour la jeune fille, c'est la foi de son père qui le fait intervenir. Et il lui recommande justement d'avoir la foi, de ne pas se laisser impressionner par la mort extérieure. Et il parle de sommeil, parce que c'est beaucoup plus doux, parce que lui va ressusciter cette jeune fille. Elle s'éteint parce que, par perte de sens de la vie, il y a beaucoup d'âmes qui s'éteignent ainsi. Mais l'âme est immortelle, donc il vaut mieux parler d'un sommeil de l'âme. Les âmes s'endorment. Et lorsque les âmes s'endorment, il ne reste plus que la partie animale, même supérieure de l'homme, mais qui n'a plus rien de spirituel. On assiste à la résurgence dans le continent occidental, européen, du monde barbare. Le monde barbare ressurgit alors qu'il avait été complètement éliminé depuis longtemps. Mais la barbarie revient tout de suite dès que l'âme s'éteint, dès que les âmes s'endorment. Et elles ne s'endorment pas pour la paix, parce qu'elles se réveilleront un jour au jugement et ce sera cauchemardesque. Jésus, lui, répond à la prière du Père, puisque les parents, tant que les enfants n'ont pas l'âge de raison, eh bien, sont responsables de la foi de leurs enfants. Là, c'est la période charnière, elle a 12 ans. Elle devient une femme. Alors, psychologiquement, si je prends la métaphore psychologique, c'est une femme qui refuse d'endosser sa vocation maternelle. Elle est effrayée, elle se dit qu'elle va perdre sa liberté, qu'elle ne va pas être heureuse si elle commence à se mettre sous le joug d'une vocation si importante et en même temps si écrasante. C'est toute la vocation de la famille, qui ne concerne pas seulement la femme d'ailleurs, mais aussi l'homme. Toute vocation est exigeante. C'est une illusion que de croire, comme l'homme moderne, il est coupé de Dieu, il est aveuglé par les ténèbres. C'est une illusion de croire que nous vivons dans un monde où il n'y a pas de vocation, où la seule finalité de l'existence, bien c'est soi-même, une vision totalement égotique de l'être humain. L'être humain n'a pas été créé pour trouver en lui-même sa béatitude, ça c'est une caractéristique divine, réservée à Dieu. Nous ne pouvons pas trouver en nous-mêmes notre béatitude, ça n'existe pas. C'est pour ça que tant de gens cherchent à l'extérieur, vers les objets matériels ou vers les créatures, eh bien de quoi, évidemment, combler le vide qui les habite. Et combien de mésalliances à ces occasions. La foi est nécessaire. Nous sommes des créatures de vocation. Il faut l'accepter. La jeune fille de 12 ans, là, cale. Elle ne veut pas accepter ça. Elle ne veut pas prendre cette responsabilité de créature en face du Créateur. La vieille femme, elle, eh bien, elle n'a pris qu'un caron, mais elle a commis des erreurs et finalement elle est sur le point de tomber. Elle est sur le point d'affronter un échec total dans sa vie. Et le Seigneur, eh bien, vient. Mais il vient dans une présence, il passe. Et la foi, ça consiste justement à accueillir la grâce qui passe, la grâce du moment. Elle ne reviendra pas. C'est une grâce unique que le Seigneur lui propose, là, en passant à travers la foule. C'est beau de voir qu'il y a un dépassement de l'impureté du péché par la miséricorde divine. Et la miséricorde divine, elle est presque personnalisée ici. C'est cette force qui s'échappe de Jésus sans que Jésus même ait quoi que ce soit à dire. Il s'étonne même de cette force qui est sortie d'elle-même de lui, sa miséricorde. C'est comme si son cœur avait agi indépendamment de sa conscience. C'est très beau de voir ça, ça nous montre combien la miséricorde divine eh bien, est une planche de salut pour tous les pécheurs que nous sommes, pour tous les pécheurs que sont les hommes. Un rien suffit, un mouvement, comme ce mouvement de la femme. Elle n'ose pas demander, arrêter Jésus, lui présenter son cas, elle n'ose pas lui parler, elle n'ose pas soutenir son regard. Vous voyez, c'est une femme qui est au niveau de la foi, qui est très loin désormais. Elle n'ose plus même entrer dans l'église d'une manière habituelle, mais là, elle fait l'effort. Là, le manteau de Jésus, c'est comme si elle entrait dans l'église quand même. Mais un peu en cachette, là, quand il n'y a personne, vous voyez. Quelqu'un qui fait ce petit geste, et ce petit geste-là est couronné de succès. Cette force de la quête à miséricorde divine, eh bien, vient la guérir. Vient guérir son âme, vient lui restaurer cette foi. Mais c'est par la foi, par un petit acte de foi, qu'elle est parvenue, eh bien, à obtenir cette libération, cette guérison. Il y a la guérison physique, mais la guérison physique, je le répète, est l'image d'une guérison intérieure, d'une guérison spirituelle. Vous voyez, l'action du mal, en général, ça consiste à isoler les personnes, à les empêcher d'entrer en relation avec Dieu. Et quand on va plus loin encore, lorsque le démon tient certaines personnes, il les isole tellement qu'il les isole aussi des créatures. Et on a des gens qui deviennent terriblement solitaires, et ça, ils ne le supportent pas. Souvent, il y a beaucoup de suicides à ces moments-là. L'homme qui, à ce moment-là, n'est pas capable de se tourner vers Dieu, de dire, bah, « Toi, Créateur, dont parle cette église là, catholique, toi, tu es le Créateur, eh bien, moi, je ne te connais pas, mais écoute, si je suis ta créature, viens à mon aide. » Une force sortirait immédiatement de Dieu et le guérirait, cet homme-là. Je vous l'affirme. La miséricorde de Dieu, c'est cette force qui a presque une autonomie par rapport à Dieu lui-même. C'est Dieu qui ne peut pas résister à la prière des humbles. Alors le réveil de la mort, là, quand Jésus prend la main de l'enfant, ça exprime aussi le fait que Dieu est la source de la vie. C'est une invitation à, sans cesse à revenir à l'Eucharistie pour nous nourrir chaque dimanche, vous voyez. On pourrait prendre comme image cette jeune fille qui s'endort, comme les croyants qui commencent à s'endormir, qui cessent peut-être de communier au départ, mais surtout qui cessent d'aller à la messe ou qui espacent leurs Eucharisties jusqu'à plus y aller, jusqu'à aller au foot ou je ne sais pas quoi, et qui finissent comme la fille de Jaïr par s'endormir. Et comme la vieille femme, finalement, par perdre petit à petit cette vie, sans pouvoir, vie spirituelle, sans pouvoir la retenir. Les sacrements servent à ça, à nous nourrir comme la manne. Alors demandons au Seigneur, devant l'empoisonnement de la vie par le mal, eh bien de trouver toujours l'antidote. Et l'antidote, c'est vraiment le cœur de Jésus, cette miséricorde qui est contenue dans cette Eucharistie à laquelle nous allons communier.